Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast Next Door avec une next curiosité, même plutôt au nombre de trois. Et pour cette nouvelle édition, je suis avec Grégory à Sofa. Donc vous entendrez, il y a un peu de bruit derrière, mais en tout cas, on était bien bien posés pour débattre, mais surtout échanger autour de ces sujets de curiosité. Et donc Grégory est un coach agile. Vous découvrirez un petit peu plus justement dans la discussion ce que c'est qu'un coach agile. Mais globalement, c'est une personne qui intervient en entreprise pour aider les équipes à mieux collaborer ensemble et à comprendre que les processus classiques d'entreprise, ça ne marche pas. Voilà. Donc Grégory est aussi passionné de jeu et les sujets qu'on a développés sont donc autour de ça, autour de l'agilité, du design thinking aussi, du jeu, de la collaboration, des biais cognitifs, des jeux de société, des jeux sérieux, comme on peut appeler ça, des serious games qu'on a en entreprise, et puis beaucoup d'autres réflexions sur justement comment est-ce que les humains arrivent à mieux collaborer maintenant ensemble et comment est-ce que la société est en train d'évoluer. Voilà, je vous laisse avec cette discussion directement avec Grégory. Et puis j'espère que vous apprendrez encore plein de nouvelles choses. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Voilà. Eh bien, bonne découverte et à très vite. Bonjour Grégory, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui à Soufa.
Bonjour
On est
Fabrice.
sponsorisé par des cafés gratuits comme à chaque fois, donc c'est très bien. Et ben Grégory, dis-moi du coup ta première curiosité ou ta première réflexion du moment, je ne sais pas ce que tu nous as apporté.
La première réflexion du moment, elle concerne. C'est un truc qui m'intéresse. C'est tout nouveau. Je rentre dans le sujet, mais je me pose la question de l'usage de toute la science des biais cognitifs une des composantes de mon métier qui va être d'aider les entreprises à créer des produits, des nouvelles offres, peu importe, comment ça se matérialise, des services, on l'appelle comme on veut, et de faire en sorte que l'entreprise et les acteurs de l'entreprise adhèrent à ça. Et de comprendre via les biais cognitifs justement à quel moment en fait les gens suivent pas ou les clients ou les collaborateurs suivent pas par des biais cognitifs. Donc les biais cognitifs c'est tout ce qui va
C'est ce que j'allais te demander, ouais. Comment tu définis toi les biais cognitifs? C'est quoi ta définition
ma définition. Alors du coup, je manque encore de littérature, c'est vraiment juste une curiosité pure, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas encore rentré pleinement dans le sujet, mais tout ce qui va te pousser à prendre des décisions irrationnelles.
D'accord.
Par un ensemble de choses. On connaît bien un des biais cognitifs qui est le fait de dire quand je vais commencer à dépenser de l'argent pour un projet et que le projet s'annonce à peu près complètement pourri, je vais préférer quand même y aller parce que j'ai déjà dépensé de l'argent plutôt que d'aller vers quelque chose d'autre qui a l'air beaucoup mieux. Mais j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent pour ce projet pourri, donc je vais quand même y aller.
D'accord, ok. Un peu comme aussi un autre biais qui me vient comme ça, c'était le fait que des personnes vont toujours faire gaffe pour arriver à économiser 5 euros par exemple pour les soldes pour un t-shirt. Au lieu de payer leur t-shirt 25, ils veulent le payer 20, donc du coup ils vont se
Ouais,
précipiter, ils vont se mettre la
exactement,
pression,
ouais, tous ces
et
biais
après ils vont
cognitifs.
acheter une voiture, et là ils auront peut-être moyen d'arriver à réduire de 500 ou de 1000 euros l'achat de leur voiture, mais ils vont pas forcément le faire.
C'est ça.
Alors qu'on est vraiment sur des échelles de prix qui sont hallucinantes. Donc là, le biais
Ouais.
cognitif, ça serait de ne pas arriver à mesurer l'échelle de proportion qu'il peut y avoir sur le fait qu'il a peut-être galéré pendant 5 mois à gratter 5 t-shirts. Et au final, s'il avait juste économisé sur sa voiture les 500 euros, il aurait pu acheter tous ses t-shirts sans se prendre la tête, quoi.
Par exemple, après
Donc,
tu as tous les biais effectivement qui sont utilisés dans le marketing aujourd'hui que tu vas retrouver dans toutes les boutiques Amazon, enfin dès que tu vas acheter des choses qui sont l'utilisation de ces biais en tout cas, de dire tu montres qu'il y a des soldes et que c'est des soldes en temps limité. Donc tu pousses à l'achat parce que tu vas avoir envie tu vas aller chercher des instincts, des choses instinctives en fait, qui sont inconscientes et qui peuvent te pousser à des choses irrationnelles. Je vais l'acheter maintenant alors que j'en ai pas vraiment besoin. Mais parce qu'il n'y en a plus.
c'est intéressant ce terme irrationnel, du coup. Parce que irrationnel, ça serait par rapport à quel référentiel, du coup?
Par rapport à des choses par exemple, je prends ce truc-là, quelque chose dont je n'ai pas vraiment besoin. Donc prendre une décision rationnelle par rapport à ça, c'est de se dire, moi, j'en ai pas vraiment besoin, donc je ne vais pas l'acheter. La décision irrationnelle, c'est je vais l'acheter parce qu'en fait, il n'y en a plus. Ou il n'y en a bientôt plus. Donc c'est ce truc qui va me pousser à me dire, c'est maintenant qu'il faut que je le prenne. Parce que si jamais à un moment donné j'en ai besoin, et c'est donc une réflexion qui n'est plus poussée par des données objectives. La seule donnée, ça va chercher des choses très instinctives en fait. Je pense qu'il y a la notion d'instinctivité.
Ah, ça tu fais remonter par l'instinct, ouais. Par rapport à un raisonnement, ouais, quand on dit rationnel, ça serait le fait qu'il y aurait quand même une sorte de bon sens au fond.
Bah, il y aura au moins des études, des caractéristiques ou de données tangibles, objectives, mesurées, calculées. Enfin voilà, ça, si on est dans le côté rationnel.
Si je regarde toutes ces caractéristiques, j'achète pas. Voilà. Mais là, avec ces espèces de leviers qui jouent sur des biais cognitifs.
Il me le faut tout de suite.
Donc est-ce que du coup, ça ne serait pas jouer sur la partie émotion, qui du coup prendrait le dessus sur la partie rationnelle, qui du coup, est-ce que le biais cognitif, ça ne serait pas... Parce que moi, je ne suis pas non plus renseigné à fond sur le biais cognitif, mais on l'analyse sans avoir la définition psychologique pure. Donc,
purement instinctive et peu rationnelle.
Voilà, c'est ça. Est-ce que du coup, ça ne serait pas ça? Ça ne serait pas d'arriver à générer une réaction qui est de l'ordre de l'émotion, qui du coup surpasse un petit peu l'analyse du cerveau rationnel et fait que du coup, ça déclenche une action, mais qui sera certainement suivie de conséquences derrière quand le cerveau sera revenu au calme, quoi.
Alors, est-ce que c'est l'émotion? En fait, j'arrive pas à savoir si c'est l'émotion ou la notion de... Donc déjà, il y a une notion de croyance. Je suis sûr que, tu vois, je me projette dans le futur sur quelque chose qui n'est pas... Encore une fois, la notion de croyance et la notion de tangible. Je crois que j'en aurai besoin plus tard, donc il me faut maintenant. Et encore, on parle d'un... Il y en a des dizaines et des dizaines, hein, des biais cognitifs. Donc là, on est en train de se centrer sur un particulier. Mais globalement, c'est toujours des systèmes de croyance. D'ailleurs, il y a un biais de croyance. Il y a un biais de dire, je valide plus ce dont je crois que ça, quand je ne crois pas, même si j'ai des preuves.
C'est un peu le fait d'avoir des vérités qui sont arrêtées et potentiellement déjà un biais cognitif.
Exactement. Bah oui, encore une fois, je vais prendre des décisions qui ne sont pas rationnelles puisqu'elles sont uniquement basées sur ma perception de la chose qui est très... qui est peu tangible. Mais ouais, mais je pense qu'il y a un côté instinctif et croyance, donc des choses qui sont pas, qui sont de l'ordre de la mesure irrationnelle. Et donc ouais, il y en a un paquet, il y en a un paquet, et donc j'aimerais voir en fait quels sont ceux qui sont, qui nous permettent de mieux comprendre les raisons qui font que l'initiative d'une personne dans l'entreprise porte pas ses fruits, parce qu'elle est pas écoutée du tout.
Parce que ça crée derrière aussi de la frustration pour la personne en elle-même, pour le projet, pour les gens auxquels on propose quelque chose où du coup ils ne s'accordent pas du tout dessus. Donc c'est aussi une problématique qui est liée à la communication.
Ben, ça va générer un problème de communication, puisque en plus de ça, c'est inconscient. Et c'est automatique. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez rigolo avec les biais cognitifs, c'est qu'on connaît les patterns, on en a tous, on en retrouve tous chez nous, et on les connaît. Et donc ils sont presque mesurables, ces biais-là sont mesurables, mais ça n'empêche qu'on sait que c'est ce qui va nous faire prendre des mauvaises décisions. Donc il y a un truc par rapport à ça, et pourtant on y va quand même.
Et en plus de ça, souvent quand on en a nous-mêmes des biais cognitifs, même si on en est conscient, face à une certaine situation, on va des fois tomber dans le biais cognitif sans s'en rendre
compte.
C'est ça.
Mais c'est tout un ça va rejoindre un autre sujet qui m'intéresse en ce moment, qui fait pas partie des trois curiosités.
On peut en rajouter un quatrième, c'est pas grave.
Mais non, mais dans la liaison, c'est l'étude qui fait que quand il y a une personne qui détecte qu'il y a un problème qui arrive, il faut s'activer maintenant parce qu'il y a quelque chose qui arrive. La personne n'est pas écoutée du tout. Donc on a ça à plusieurs échelles. Hein. Les échelles les plus visibles, c'est le climat, par exemple. T'as des gens qui vont lancer des alertes. Il faut qu'on change maintenant parce que sinon ça va avoir des répercussions. Et pourtant personne ne fait rien. Et donc il y a ces croyances contre croyances, ces données tangibles contre croyances, ou en tout cas il y a un moment donné où il y a probablement, et c'est là aussi moi ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'il y a probablement des biais cognitifs des deux côtés qui font que le message ne passe pas. Tu parlais de communication justement tout à l'heure, qui fait que le message ne passe pas, ou en tout cas même s'il passe, et alors
Ou une forme de langage, voilà. Le fait de se dire qu'une personne qui, dans son langage, serait sur, par exemple, un modèle de croyance, son biais cognitif serait dans la croyance, alors pour lui faire entendre quelque chose, il faut lui parler avec le langage qui est lié à la croyance. Parce que si tu lui parles avec un langage qui est d'un autre levier, justement, comme tu disais, d'urgence, par exemple, bah là, ça ne va pas fonctionner pour elle. Même si tu lui donnes plein de chiffres et que tu lui dis, pour voilà, c'est urgent pour ça, 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 la personne ne te suivra pas forcément parce que ça ne va pas résonner avec son modèle
C'est
de
ça.
pensée. Alors qu'une personne qui, elle, est plus sur une partie chiffrée ou analyste, tu vas pouvoir lui dire, bon, bah là, par exemple, la planète va se casser la gueule dans 5 ans si tu ne changes pas ça. Là, elle va comprendre. Par contre, si tu lui dis d'une manière orientée pour un idéal ou un domaine de croyance, quoi, le monde pourrait être meilleur si jamais tu changeais ça, elle, ça ne va pas forcément lui parler.
Potentiellement,
Potentiellement,
c'est lié à des,
on pourrait déjà
il
avoir
y
deux
a sans
modèles
doute des
différents.
pistes qui sont liées
Voilà.
à une piste de langage commune, en fait. Mais bon, après.
Donc c'est vrai que dans le cadre de l'entreprise, ce qui te concerne pas mal toi, c'est vrai qu'un manager qui serait sur un certain biais cognitif et pas du tout dans le même biais cognitif que ses employés ou les personnes avec lesquelles il bosse, ses collaborateurs, du coup ils pourront jamais réussir à communiquer parce que lui continuera à essayer de leur balancer des modèles de croyance, par exemple, si c'est son biais cognitif, puis les autres auront besoin d'avoir des chiffres en dessous, des choses un peu plus analystes, et elles comprendront pas que ce manager tellement perché dans ses idées, n'arrive pas à leur donner des vraies informations qui leur permettent d'avancer dans leur boulot.
Ah, potentiellement, alors je ne sais pas si c'est des. Je sais, alors c'est là, encore là, ça va faire discussion de. Je vais partir dans la discussion de comptoir parce que j'ai pas
C'est
le
bien,
fond derrière.
il nous manque juste une petite
Il
bouteille
faudrait
de vin.
le petit, voilà, c'est ça,
On en avait parlé la
le
dernière
petit
fois
rouge.
dans l'ancien podcast qu'il fallait faire des gonzos aussi, tu sais.
Ah oui,
On le
pourquoi
fera
pas.
en
On fera
vidéo, on
ça.
boira du vin, on fumera des clopes et on parlera tout doucement comme ça sera vachement bien aussi.
Mais la question c'est, oui, je sais pas aujourd'hui si chacun a ses biais cognitifs ou si finalement on a tous nos biais cognitifs. Qui génère un discours différent. Dans ce cas-là, on a des problèmes de communication. Mais clairement, il y a une notion de croyance contre croyance. Ou en tout cas, d'éléments qui génèrent une croyance particulière, qui va résonner ou pas chez les autres. Mais c'est intéressant la notion de résonance aussi sur cette notion donc ce sujet de lanceur d'alerte et de gens qui vont essayer de pousser des sujets qui ne seront pas écoutés, ce qui va générer de la frustration, qui va générer de l'énergie inutile,
Et
une
puis à la fin,
machine
il va dire, mais
d'énergie.
je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Sauf que ce qui est
Exactement.
intéressant, c'est que je vous l'avais dit, c'est peut-être pas le quoi qui était important, c'était le comment je vous l'avais dit. Donc il a peut-être dit quelque chose qui était une vraie alerte, mais il ne l'a pas dit de manière compatible pour que les autres
La
puissent
personne
arriver
puisse l'écouter
à le
en
recevoir.
utilisant les mêmes termes. Ouais.
Ouais, exactement, ouais.
La même piste de communication. J'imagine une piste sonore, tu vois, justement, dans laquelle on était sur la même longueur d'onde. Enfin,
Ouais.
mais ouais. Effectivement. Donc je voilà, c'est un de mes futures analyses et de voir comment ça va venir s'injecter dans ce que je peux amener aux personnes avec lesquelles je travaille.
Ce qui pourrait t'aider justement à faciliter les relations, les échanges, les collaborations entre les personnes.
Potentiellement, le niveau 1 de ça, c'est permettre à des gens qui sont justement frustrés par le fait que ça bouge pas, pousser des choses, le fait que ça bouge pas, que ça ne résonne pas, on va utiliser ce terme. Ça ne résonne pas chez les autres, puisse comprendre pourquoi ce n'est pas le cas. La deuxième étape, de se dire, mais comment je fais pour dépasser ce blocage, et notamment pour embarquer des collaborateurs, embarquer des clients, en ayant compris que les raisons qui faisaient qu'il y avait de la friction dans ma capacité à faire bouger les choses.
Et la troisième étape?
Et la troisième étape, et ben dans la troisième étape, c'est de se dire que ces personnes-là puissent systématiquement comprendre et dépasser tous les obstacles, tous les biais cognitifs qu'ils pourraient rencontrer.
Dans une idée d'arriver à fluidifier au final un peu toutes les interactions que
Mais d'arriver à avoir
les humains peuvent avoir entre eux, quoi.
l'objectif en tout cas pour la mission qui est la mienne. Pour réussir à faire à construire des services, des produits pour que les clients puissent créer leurs services et puissent embarquer l'entreprise systématiquement dans des formes d'amélioration des produits existants, d'innovation si jamais on va vers de l'innovation. Mais comment je fais pour faire quelque chose qui a de l'écho et à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise.
Très bien. Eh ben, faut acheter ce bouquin alors.
Et voilà, c'est
Et tu me prêteras
Dan
aussi.
Ariely.
Parce que j'ai quelques articles que j'avais gardés de côté justement sur tout ce qui était lié au biais cognitif. Et je te passerai aussi un truc là, c'est sur. Je pense que je le partagerai avec le podcast aussi. C'est une sorte de gros mind mapping en fait que j'avais trouvé sur Kaggle, une application là, de Google, où tu as tous les biais cognitifs.
Oui, non mais il y en a
un mapping immense
voilà.
de tous les biais cognitifs.
Donc, j'ai cette mission d'aller lire et de checker voilà. Ce qui me semble.
Il faut regarder. Après, tu arriveras à trop connaître dedans.
Je pense que oui.
On doit en avoir tellement des biais cognitifs.
Oui, il y en a un paquet.
Qui viennent certainement de l'éducation, des concepts, des croyances de la société, des croyances religieuses qu'on se traîne depuis avant. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ton travail que tu fais toi, là, ce qui a orienté justement services et produits avec les entreprises, au final, c'est le même type de travail que font aussi des psychologues, justement, avec des personnes ou avec des groupes de personnes, ou même des sociologues, en fait, qui essaient de comprendre les biais cognitifs qu'il peut y avoir dans des groupes. Potentiellement, c'était le même travail que faisaient les religions aussi, pour arriver à trouver les leviers qui fonctionnent pour arriver à embarquer des gens ensemble.
Ouais.
Et même d'ailleurs, un peu ce que cherche à faire aussi. Là, actuellement, il y a eu beaucoup de dystopies pour la prospection sur ce qui va se passer, ce qui va arriver, le futur de notre monde, toutes ces choses-là. Et là, récemment, j'ai vu pas mal de personnes qui, justement, sont en train d'essayer de construire des idéaux. Parce qu'ils savent, avec les analyses qu'ils ont faites, que l'un des biais cognitifs, je ne sais pas si c'est un biais cognitif ou une caractéristique de l'être humain, c'est que pour qu'on arrive à faire des choses en groupe, il faut qu'on ait des mythes partagés. Il faut qu'on ait des espèces d'idéaux qui sont plus grands que nous, même peut-être plus grands que la réalisation possible, mais que ça résonne. Et si jamais alors on arrive à trouver des idéaux qui résonnent, et bien là les gens peuvent se dire « Ok, en fait j'ai envie d'en être et je vais me lancer dans ce truc-là. » Comme par exemple de se dire, je ne sais pas, Lyon, dans 2022, ça va être la ville la plus collaborative du monde. Chose qui est atteignable, donc il y a toujours ce côté un peu atteignable, mais qui paraît très lointain. Et du coup, ça peut engager en fait pas mal de gens, parce qu'ils disent « Ah ouais, j'ai envie d'en être. Si on peut y arriver, j'ai envie d'en être. » Alors que des choses qui sont peut-être encore plus abstraites, passer une belle vie pour pouvoir aller au paradis, tu vois, c'est quelque chose qui maintenant pour nous est devenu tellement lointain que du coup, on a beaucoup plus de mal à raisonner avec ça. Donc il y a des ajustements aussi de ces idéaux, de la manière de les présenter qui sont assez intéressants aussi.
Peut-être la différence entre ambition et l'utopie, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Une utopie, de toute façon... d'ailleurs, est-ce que c'est un biais cognitif actuel ou pas? Je ne sais pas. Mais le fait que quand on dit à quelqu'un « construisons une utopie », par exemple, on part de base qu'en fait, on n'y arrivera jamais.
Ouais.
Après, est-ce que la définition même d'utopie, elle est dans ce sens-là ou si... je ne sais pas. Donc, cool, ok, premier sujet bien intéressant.
Et le deuxième. À creuser donc, à suivre.
À suivre, on trouvera des bouquins pour ça.
On trouvera des bouquins pour ça. Deuxième, c'est dans ce qui est pas nécessairement une curiosité, c'était dans ce qui me faisait titiller, vibrer. On a eu l'occasion d'en discuter en dehors d'aujourd'hui, mais c'est toute la mouvance design thinking. Donc, qui encore, ça fait partie aussi des sujets. Des sujets qui m'intéressent, et donc d'en voir l'ampleur.
L'ampleur du design thinking.
Du design thinking, tout ce que ça englobe. C'est assez marrant de... Donc moi, initialement, je travaille sur l'agilité des entreprises, et l'agilité a tendance à englober aussi beaucoup de choses. Et donc c'est assez rigolo, en tant qu'agiliste, de voir que maintenant, le design thinking englobe des choses, englobe de l'agilité. Vient de se marcher sur les pieds. C'est assez rigolo, mais en tout cas, voilà, il y a une ampleur énorme et poser la question de qu'est-ce qui se cache derrière.
Ouais, d'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais donner ta définition d'agilité et de design thinking
Donc l'agilité, c'est comment tirer parti de la complexité du monde qui nous entoure. Donc on parle d'agilité des entreprises, donc on va revenir dans le monde des entreprises, mais on parle d'environnement dit VUCA. Qui est un acronyme anglais qui veut dire volatile. Donc les choses bougent très vite, incertain. Donc ce qui est là aujourd'hui ne sera pas là demain. Donc la notion de volatilité et de changement. Complexe. Donc la complexité, c'est quand intervient tellement de critères différents et de caractéristiques différents d'un même sujet que je suis obligé de changer ma manière de voir les choses. Je ne peux pas le maîtriser, il ne peut pas y avoir d'expert de la complexité. C'est quelque chose qui... Il faut changer sa manière de fonctionner. Et ambigu. Donc l'information que j'obtiens n'est pas forcément la bonne. En tout cas, je peux avoir deux sons de cloche d'une même information. Donc en gros, tout bouge dans tous les sens, avec beaucoup, beaucoup de critères différents. Et donc l'agilité, c'est comment je vais tirer parti de ça, comment je vais justement transformer ma manière de fonctionner pour ne plus vivre ça comme une contrainte et un risque, mais comme une opportunité de fonctionner différemment. De toute manière, c'est là. Donc si je le vis comme une contrainte, je vais galérer tout le temps. Si je le vis comme une opportunité, je vais pouvoir créer d'autres choses. Et donc le design thinking, c'est un... je pense que tout comme l'agilité, il y a autant de définitions du design thinking qu'il y a de gens qui mettent en pratique, ou alors qui en font, qui le pensent, qui voient ça comme une posture, qui voient ça comme une méthode, qui voient ça comme une méthode très caractéristique sur 5 étapes à suivre à la lettre. Et donc, si on suit la définition de Tim Brown, c'est lui, il dit que c'est une boîte à outils du designer pour résoudre des problèmes complexes. Donc, si on se dit que c'est une démarche, en tout cas un mode de fonctionnement, un peu comme l'agilité, en fait, ça peut être beaucoup de choses, mais une démarche, un mode de mise en marche des projets, des réflexions, allié à une posture pour résoudre des problèmes complexes. Et moi, j'aime bien ne limiter le design thinking par la capacité à faire des produits désirables, viables et faisables. Et j'aime bien ça parce que ça permet d'ouvrir au maximum autour. Et donc le système en 5 étapes qu'a théorisé la D-School et David Kellen, donc l'acolyte de Tim Brown, qui est empathie, define, ideate, prototype, test, se dire que c'est peut-être une façon de le faire. En tout cas, c'est bien, c'est packagé, c'est clair, on peut comprendre assez facilement. Mais de sortir de ce carcan pour aller chercher tout ce qui peut nous permettre de créer des choses qui sont désirables, viables et faisables. Voilà ma définition du design thinking. Appuyer sur cette capacité de design thinking, cette capacité à partir d'utilisateur, c'est quand même assez prégnant, hein. Pour créer du désirable, c'est aller voir l'utilisateur.
Désirable dans le sens d'aller chercher un peu leur besoin.
Résoudre une problématique
besoin.
Et en faire quelque chose qui a de la valeur, ou en tout cas qui donne envie d'être utilisé. Envie de consommer ce truc. Mmh. Alors, le terme consommateur peut être mal vu, mais moi je le vois comme de l'usage, en fait. Purement. Consommation sans usage, j'utilise. Mais donc, une posture qui est liée justement à cette curiosité et cette ouverture d'aller sur le terrain pour aller récolter de l'information, avoir ce niveau d'ouverture et de curiosité pour aller chercher toutes les possibilités pour résoudre des problématiques, avoir le niveau d'ouverture et de curiosité pour essayer de trouver des solutions à ces problématiques, pour réussir à... et d'ouverture pour trouver donc des solutions techniques et d'y croire suffisamment et d'être aussi assez rationnel pour en faire quelque chose qui est viable, justement.
Et donc, d'un côté, si je relis les deux, comme tu disais tout à l'heure, entre l'agilité et le design thinking, tu aurais l'agilité qui est là pour arriver à peut-être déjà prendre conscience que... Enfin, les deux, dans tous les cas, permettent de prendre conscience qu'on est dans un système de société, d'entreprise, humain, qui est complexe, et que dans cette complexité, on ne peut pas arriver à coincer quoi que ce soit ou à solidifier quoi que ce soit pour le simplifier. En fait, essayer de simplifier quelque chose de complexe, ça le rendra encore plus complexe. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, j'ai lu hier, qui disait que pour régler la complexité, tu ne pouvais régler la complexité qu'avec quelque chose de complexe. Le complexe peut régler le complexe, mais le simple ne peut pas régler le complexe. Et que depuis des années, justement, dans nos sociétés, on essayait de tout simplifier et que cette simplification, en final, rendait encore les choses plus complexes. Et au final, ça n'a pas raté parce que là, on est dans un état de société qui, certainement, est l'un des états les plus complexes qu'on ait jamais connu au niveau de l'humanité. Mmh. Et donc déjà, voilà, cette première partie qui serait d'arriver à gérer la complexité, déjà la comprendre, à l'accepter. Et après, l'agilité permettrait de la gérer, de l'appréhender, en fait.
En fait, c'est deux démarches. Donc déjà, de base, si on lit la littérature design thinking, qu'elle soit officielle et officieuse, on est quand même sur des démarches test and learn. Donc je teste des choses, j'apprends des choses, je modifie, j'apprends, je continue. Que ce soit de l'agilité, avec cette démarche itérative et incrémentale, dans laquelle je vais répéter, je vais essayer d'améliorer un process, je vais essayer d'améliorer un produit, un service et incrémental, je vais en rajouter petit à petit. Ou le design thinking, qui est un mode, je vais tester... régulièrement, qui est je pense pas design thinking qui est designer, c'est-à-dire que j'arrive, je teste des choses, des matériaux qui fonctionnent entre eux, donc dans la terme faisabilité, mais aussi est-ce que ça c'est vraiment l'usage que je veux créer, est-ce que je suis bien dans la désirabilité, je réponds bien à la problématique, et donc ça ne fonctionne que par j'essaie des choses, j'échoue et j'améliore. Donc ça, pour le coup, design thinking et agilité, ça c'est la même chose.
C'est ça.
Donc finalement, le design thinking est une démarche fondamentalement agile par ce fait-là.
Exactement.
Je vais réussir à créer les trucs qui ont le plus de valeur possible, et je veux mettre en place une démarche qui, ben, comme je suis pétri d'incertitudes, puisqu'on est dans un environnement complexe, je vais fonctionner par système itératif.
On a une démarche qui appréhende la complexité, une autre démarche qui va l'explorer, mais dans tous les cas qui sont sur cette espèce de boucle très resserrée de...
Il faut aller vite.
Et peut-être que aller vite dans le cadre par exemple d'une entreprise, parce que la notion de timing est primordiale.
Ouais.
Mais après j'aurais même envie de dire que le côté test and learn, c'est plus aller court dans le sens où dans tous les cas, si jamais je m'amuse à essayer de trop prévoir choses ou de trop structurer, et ben justement en fait c'est comme si j'allais dans le mur directement, mais trop tard.
C'est le exactement. En fait, le but de l'agilité est de diminuer ce qu'on appelle le coût du changement. C'est-à-dire que si je m'amuse à prévoir pendant des mois et des mois à lancer quelque chose, je suis sur le marché, mais même avec des collaborateurs, peu importe ce qu'on... Je construis pendant des années quelque chose que je donne à quelqu'un et que ce quelqu'un, il s'en sert pas, il n'en a pas l'usage ou le truc se casse la figure pour x ou y raison. Ben, j'ai échoué pendant 2 ans ou 3 ans, voilà. Je peux mettre tout ça à la poubelle. Donc l'idée effectivement est de diminuer le coût de changement, qui est de dire ben, j'échoue vite, moins ça m'aura coûté, et le fait de refaire me coûtera moins cher aussi, et donc plus je vais avoir une démarche qui est d'échouer rapidement et de façon mesurée. On ne dit pas que l'erreur est
oui, et puis c'est pas non plus le fait de se dire je vais me planter pour me planter.
J'ai pas l'idée de se planter, c'est de se planter pour apprendre. C'est toujours se planter pour apprendre, mais je vais pas aller chercher le plantage effectivement. Si je peux réussir du premier coup, tant mieux. Mais si je réussis du premier coup, c'est que j'ai validé un des étapes à chaque fois. Et je réussir du premier coup sur une phase de 2 ans, c'est peut-être que j'ai réussi 6, 10 fois, 20 fois des trucs au fur et à mesure, et à la fin ça aura donné que du succès. Mais j'aurais pu mettre des points, des jalons au milieu pour vérifier que ça fonctionne.
Ouais, parce que l'erreur, au final, le fait de s'être trompé ne devient qu'un feedback et qu'une information qui te dit « Ah, ben du coup, il faut que tu réorientes les gens de ce côté-là » et tu réajustes continuellement.
C'est ça,
passe.
Tout à fait.
C'est marrant parce que il y avait les analogies, j'aime bien, et il y avait un article que j'avais envie d'écrire sur l'analogie avec l'escalade. Parce que du coup, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou de managers avec qui j'ai bossé aussi, qui font de l'escalade. Là, on est peut-être sur une notion de biais cognitif, d'ailleurs.
Ouais.
Et qui, quand ils sont au travail, ne sont pas du tout sur une démarche agile et sur une fonction de test and learn et compagnie. Mais par contre, quand ils sont en escalade, ils sont comme tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont en bas de leur voie. Alors là, l'escalade, plus la partie bloc, donc la partie où on n'est pas attaché, on ne monte pas sur des grandes voies, mais plus des parties où c'est des voies plus techniques, mais plus courtes. Et ben, tu es en bas, tu regardes la voie, donc tu as déjà une forme d'observation en fait, du terrain. Ensuite, dans ta tête, tu t'imagines comment est-ce que tu parcourrais cette voie. Donc c'est un premier test, on va dire. Et après, ton test, tu le mets directement en application, c'est-à-dire que tu vas commencer à t'accrocher sur tes prises, puis tu commences à grimper. Et puis très rapidement, en fait, tu te rends compte que tout cheminement que tu t'étais fait dans la tête, bah déjà, tu n'arrives pas à le faire facilement avec le corps. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu recommences et que tu recommences plusieurs fois juste pour arriver à faire ce qu'il y avait dans ta tête. Parce que ton corps, bah, faut que tu aies une considération de ça. Donc, l'analogie que j'en ferai avec ça, c'est de se dire, bon, bah voilà, peut-être que dans ta tête de manager, tu avais réfléchi à comment il fallait faire pour tel projet. Mais par contre, bah, dans la pratique, mettre en synergie tes équipes comme tu avais prévu, ça se passe pas aussi facilement que ça, et il faut que tu travailles avec eux. Comme si les gens de ton équipe, c'était des parties de ton corps, et du coup, il fallait arriver à créer cette conscience d'équipe, comme toi, tu te crées ta conscience de ton corps quand tu grimpes. Et après, ben, quand tu as pris cette conscience-là, tu grimpes, et ce que tu avais prévu comme enchaînement de prise, ben, c'était pas du tout ce qui était bon, en fait. Mmh. Parce que dans ta tête, ça marchait, mais après, en pratique, ça marche pas. Donc du coup, tu es obligé de, encore une fois, réitérer, tu as fait des erreurs, tu es tombé plein de fois, et tu remontes, et tu recommences, et jusqu'au moment où tu arrives à faire la voie, Et là, du coup, la voie, bah, tu te rends compte que c'était le kiff de la parcourir parce que justement, tu t'es trompé plein de fois. Parce qu'en escalade, si tu montes tout d'un coup, ben, tu te fais chier et c'est trop facile. Là, du coup, tu es content d'avoir été à l'erreur. Et qu'en plus de ça, tu as appris continuellement et tu sors de cette voie-là en ayant fait une petite progression sur ton expérience et que c'était par justement le fait de t'être planté que tu as ces trucs-là. Et après, le dernier point, c'était sur le fait que c'est très très rare quand quelqu'un est à l'escalade tout seul. Au final, c'est quelque chose que tu grimpes seul. Mais très souvent, quand tu es en bas et que tu n'arrives pas à monter, que tu bloques, bah, tu tournes vers un autre et tu lui demandes de te montrer comment est-ce qu'il a fait lui. Et puis ça peut être quelqu'un qui a 77 ans, ça peut être quelqu'un qui a 7 ans. Et des fois, celui de 7 ans, il va t'apprendre des choses que tu n'aurais pas pu imaginer, quoi. Donc tu vois, c'était ça un peu qui était rigolo dans cette analogie, c'était de se dire que bah, là, tu comprends que les choses, elles sont itératives, collaboratives, que du coup, il faut aller à l'erreur. Et puis après, quand tu es dans un autre contexte, le contexte de ta vie ou d'entreprise, bah, là, du coup, tu es sur un biais qui est complètement différent, quoi.
Ouais. Mais de toute façon, on peut regarder, hein, on peut trouver des exemples de tests rapides et d'erreurs rapides dans beaucoup d'environnements. Et effectivement, dès qu'on on est dans un système dans lequel je visualise un objectif qui est difficile à atteindre et que je vois qu'il y a plusieurs pistes pour y aller, je sais pas, on peut imaginer avec ton GPS, ou si t'as pas de GPS, t'arrives dans une rue, ben c'est un cul-de-sac, ben tu prends une autre voie et tu prends une autre issue et tu sais que tu veux aller dans un endroit particulier, tu vas essayer plusieurs fois et à chaque fois tu vas aller un peu plus loin, tu vas reculer, tu vas repartir. Mais dès qu'il y a de l'inconnu, t'es obligé de fonctionner par du test et de l'apprentissage.
Et au final, du coup, est-ce que ça serait pas justement un énorme biais cognitif, l'entreprise, quoi, comme elle a tourné jusqu'à maintenant, sur le fait que quand tu regardes, comme tu dis, l'escalade, quand tu explores, quand tu voyages, comment ça se passe dans la nature, parce qu'on a aussi toutes les inspirations de la nature sur le fait que la nature, ben, l'évolution en elle-même ne fonctionne quasiment que en test-erreur, test-erreur, et puis ce qui du coup réussit à évoluer et à se changer, hop, du coup, peut continuer à survivre et ça continue à faire son bonhomme de chemin dans les espèces. Et que du coup, ben, l'entreprise comme elle est encore actuellement, de l'industrialisation, n'a rien à voir avec ça, quoi. Complètement sur un modèle qui...
De prédictibilité,
de
recherche, d'assurance.
De recherche de solidité, inspiré de rien de particulier, quoi. Peut-être inspiré des époques encore plus antérieures où là il y avait le côté monarchique, royauté, on te dit ce que tu dois faire, donc du coup tu vas le faire, et dans tous les cas tu as cette espèce de solidité du truc, quoi.
Mais il y a peur de l'échec, globalement il y a la peur de l'échec. Tu vois, tu parles de l'escalade, qu'est-ce qui fait que tu vas le faire sur la partie bloc plutôt que sur la partie voie? C'est que bah, si tu tombes, tu as les matelas, pour en avoir fait un tout petit peu, je ne suis pas très fan de l'escalade, mais pour en avoir fait un petit peu, j'ai toujours eu moins peur de me planter en arrivant en haut d'une voie de bloc, parce que c'est fait pour te relâcher et retomber sur ton matelas, que de me casser la binette en haut de ma voie à faire un sec sur 2 mètres et de me taper contre le mur et de me rafler le coude. donc, en fait, j'ai moins peur de tomber sur ma voie de bloc. Parce que je sais que vu qu'il y a des prises un peu partout, je pourrais toujours trouver d'autres voies pour y aller, effectivement le refaire, le reprendre à d'autres endroits, ou de le faire différemment, alors que sur la partie grande voie où tu es harnaché dans tous les sens, bah, tu n'as pas envie de tomber.
Alors dans ce cas-là, tu es dans la tête des personnes, pour qu'ils arrivent à se comporter comme à l'escalade, ça serait d'arriver à faire en sorte qu'ils sachent qu'il y a un matelas.
Mais en fait, c'est sur la prise de risque.
C'est-à-dire,
quelle est ma prise de risque ? Il n'y a pas toujours des matelas. Il y a des fois, tu fais une erreur, bah, tu te plantes et ça peut faire très très mal. Mais par contre, c'est comment je réduis le risque. Et donc, notamment sur la notion d'itérer rapidement, c'est de se dire, bah, moi de toute façon, si je me plante, j'aurais passé 2 semaines, ou 3 semaines, ou 2 jours, ou ça dépend de ton cycle d'itération. Mais te dire, au moins, voilà, ma prise de risque, elle est limitée. Si je pars sur 1 an, que je monte ma voie et que j'arrive tout en haut, et que là je me plante et que je redescends tout en bas, il faut que je remonte jusqu'en haut. Et en plus de ça, je me suis fait mal au milieu, parce que la personne qui me sécurisait, elle n'a pas bien fait.
Puis j'ai dû tout préparer. Si par exemple, je voulais faire une voie en falaise qui faisait 300 mètres, voilà. J'ai dû tout préparer pendant 6 mois. Et puis au final, en fait, je me rends compte que j'aurais peut-être mieux fait de faire du bloc pour me préparer à cette voie, plutôt
mais
que
directement
me jeter dedans.
C'est un rapport à la prise de risque. Il y a toujours des matelas, mais il sera toujours plus rassurant de se dire que tu tombes de pas très haut si tu dois tomber, quoi. Et donc ça pousse à y aller. Voilà. Donc par contre, bah, y a des entreprises qui, même ce risque-là de tomber de pas très haut, est un risque en lui-même, quoi qu'il en soit. Et donc préférons ne pas du tout visualiser ça et partir sur des modèles longs, prévus dans tous les sens, quitte à ce que ça se plante à la fin. Mais c'est un autre sujet.
Et donc pour toi, là, le fait que tout ce qui est lié au design thinking et à l'agilité
commence à grossir,
ça te questionne?
Ça me questionne, c'est pas que l'agilité soit très présent, que le design thinking, c'est la surprise, c'est que ça va très très vite, ça explose. Est-ce que c'est une bulle, est-ce que c'est pas une bulle? Est-ce que ça accélère vraiment très vite, ça absorbe beaucoup de choses, mais à tort ou à raison, j'ai compris, j'ai pas compris, je sais pas. Mon observation des mises en place de design thinking sont très portées sur la partie de créativité, d'innovation, et les entreprises, aujourd'hui, il y a une vraie attractivité de ça. Comment j'arrive à rattraper les GAFA, devenir comme eux, à accélérer mon évolution, ou à créer un dispositif qui me permette d'évoluer rapidement et à toujours être à la pointe. Mais il n'empêche qu'on va mettre en place du design thinking parce que ça va nous permettre d'être innovants. Hein. C'est une démarche. Et donc, je vais entendre design thinking, c'est une démarche rapide pour arriver à des résultats rapides. Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Si je suis dans une recherche de complexité, il n'y a pas de moyens rapides. Peut-être qu'il y a des moyens rapides. Si je tombe juste tout de suite, j'ai de la chance. Ça peut être très long. Parce que comme on est dans de la complexité, comme on est dans des problèmes complexes, voire très complexes, ça va me demander de rater plusieurs fois. Ça peut être assez long. Donc j'ai du mal avec l'écho de ça. Donc en fait, c'est le grossir rapidement et sur quoi ça s'appuie. Design thinking, c'est tant, mais est-ce que on a bien tous compris ce que ça voulait dire, en fait? Cette recherche de démarche, hein, c'est une démarche structurée, machin. Est-ce que c'est vraiment une démarche structurée, le design thinking? Ce côté packagé, est-ce que je discutais par exemple avec James Auger, qui est un designer qui fait du design éthique, à la conférence Mixit. On a eu à la conférence Mixit, et je lui demandais, voilà, un vrai designer pour le coup, hein. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses du design thinking? C'était bullshit, quand même. D'un point de vue de designer, c'est une manière de packager, de vendre une démarche structurée pour des cabinets de consulting.
Ok, d'accord.
Et pour lui, en tant que designer de longue date, et absolument génial, hein, c'est beaucoup curiosité ou découverte. James Auger, en discuter avec lui, ça a été absolument génial. Et donc il avait cette vision, voilà, d'un truc packagé. Donc qu'est-ce qu'on met derrière le design thinking? Qu'est-ce qu'on achète quand on va mettre en place du design thinking? Quand je dis quand on achète, c'est pas forcément un cabinet de conseil ou d'accompagnement, mais même si je décide de mettre en place du design thinking dans mon entreprise, moi, à mon niveau, qu'est-ce qui se cache derrière? Et le fait que ça grossisse et que ça devienne hyper mainstream, il y a une forme de fascination. C'est quand même assez impressionnant, cette entrée, surtout que c'est quelque chose qui date pas de... C'est arrivé en France, quoi, il y a deux ans, deux, trois ans?
Oui, deux ans à peu près.
Deux ans, hein. Ça existe depuis 2010, et ça existe encore depuis...
Oui, depuis les premières recherches...
2000, pardon, 2000.
Les premières recherches étaient à Stanford, dans
les années 70, qui sont tirées de choses des années 50.
Exactement.
Enfin, voilà, donc c'est... Mais bon, depuis deux ans, ça explose, et ça explose très très vite. Ça explose très très vite sur un... Et je pense qu'il y a des bonnes... Enfin, tu vois, j'aime beaucoup ça. J'ai eu des grosses révélations, notamment sur la partie vraiment des indices sur la partie aller vers les utilisateurs. En tout cas, c'est par là. C'est une des portes que j'ai eues. C'est une porte d'entrée que j'ai eue vers ça. Donc, il y a des choses très intéressantes dans ces pratiques-là, cette démocratisation de pratiques de design, sans doute. Mais qu'est-ce qu'on met derrière, quoi? Et ça grossit très vite. Et est-ce que c'est sur du vide? Est-ce que donc c'est vraiment une bulle? Moi, c'est ma question, en fait.
Une bulle?
Est-ce que c'est une bulle? Pour moi, la bulle, c'est quand tu as des choses qui grossissent très vite, qui sont basées sur rien du tout. Donc, à quel moment, si c'est une bulle, à quel moment elle va faire poupe? Et on passera à autre chose.
C'est la grande question. Et moi, mon point de vue là-dessus, c'est que tu as une complexité à comprendre la complexité. Mm-hmm. Du coup, les gens, comme on disait juste avant, essayent de simplifier pour faire comprendre la complexité, ce qui ne marchera pas. Il n'y a que la complexité qui peut faire comprendre la complexité. Et donc, il n'y a que par l'expérience directe des choses qu'on peut arriver à comprendre la force qu'il y a dans le modèle de pensée design ou dans le design thinking ou dans toutes ces choses-là, je pense. Mmh. Et que du coup, il va falloir qu'il y ait une multiplication des expériences. Donc là, le fait que ça explose, c'est des essaimages en fait, de tests de partout qui, malheureusement, si en fait, sont trop structurés par rapport à quelque chose de trop carré, les gens vont s'en limiter à l'artefact, vont s'en limiter à l'objet. Ils vont se dire, ah bah tiens, ces cinq étapes, comme tu dis, ce livre, cette méthodo, cette personne, cette boîte, ils m'ont vendu un truc qui est bullshit parce que ça ne marche pas et j'ai pas senti quoi que ce soit dedans. Donc du coup,
j'ai mis toutes les étiquettes, mais pourtant...
C'est ça. Toutes les étiquettes, tous les labels, mais pourtant, bah, ça n'a pas marché. Et puis à côté, d'autres qui, du coup, pratiqueront peut-être vraiment ce modèle de pensée collaboratif, mais qui auront peut-être moins de visibilité que ces gros boîtes de consulting, comme tu dis, qui auront peut-être dénaturé un peu leur travail. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que, vu que c'est un modèle de pensée qui est collaboratif, il faut que, encore une fois, tous les gens qui sont sur ces modèles de pensée-là collaborent entre eux pour arriver à faire remonter, en fait, qu'est-ce qu'il y a au fond. Quelles sont les expériences qu'on propose aux gens, quelle est cette... Il y a quoi de sous-jacent là-dedans, quoi.
Ouais.
Et qu'on arrive à expliquer par l'expérience. De se dire, bon, bah voilà, regardez, on vous a mis pendant 3 jours ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé sur les différentes étapes des 3 jours ensemble? Quand on vous a fait explorer ce qu'on appelle le diverger dans le design thinking, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, oui, vous avez créé plein d'idées, c'est super et tout. Mais qu'est-ce qui a fait que, du coup, vous avez réussi à en sortir vraiment des idées nouvelles de ça? Bah, quand vous avez convergé, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que vous avez connecté des choses que vous n'aviez pas pensé à connecter avant. Peut-être que c'est parce que vous avez des modèles de pensée qui sont différents, des biais cognitifs qui sont différents. Parce que, au début, on parlait des biais cognitifs dans un sens un peu négatif parce que ça peut poser des problèmes pour une personne. Mais des fois, le fait de faire rebondir un biais cognitif contre un autre biais cognitif, bah, ça fait émerger quelque chose de nouveau. Parce que du coup, cette notion de complexité, ça fait émerger un troisième type de complexité. 1 plus 1 égale 3 dans le design thinking aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et qu'en fait, avec toutes ces explications au long du chemin, bah, les personnes, par l'expérience et l'explication de quelqu'un de mentor qui est là pour les accompagner là-dessus, puissent se dire, ah mais ouais, en fait, d'accord, il y a tout ça. Et que tout ça, en fait, c'est plus une méthode ou c'est plus un livre ou c'est plus un package, c'est moi. C'est ce que moi, j'étais capable d'en faire avec les autres. Et du coup, c'est ce que je peux le prendre et aller en faire avec d'autres personnes, à ma manière aussi.
Ça doit passer par des changements de travail collectif, du désilotage, c'est-à-dire aussi sortir de son service, de l'entre-soi, de l'entreprise. Je suis avec les gens qui font la même chose que moi pour aller ouvrir. Et je pense que ça fait partie aussi des fondations d'une démarche design, c'est d'aller chercher des gens qui viennent d'ailleurs pour venir alimenter l'étude de l'existant ou aller trouver des solutions à des problématiques. Et c'est la même chose dans l'agilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser et se mettre avec toutes les personnes qui vont permettre de comprendre, de mieux cartographier les choses complexes qu'on a devant les yeux. Et je pense que ça passe aussi par des nouvelles manières de travailler collectivement, de désilotage, donc de casser. On en parle depuis des années et des années dans l'agilité, je pense qu'on doit en parler dans des années et des années dans d'autres démarches. Mais c'est plus vrai que jamais, quoi. Et ça rend les choses difficiles, parce que le design thinking aussi, je pense que c'est un des freins majeurs de la mise en place de démarches design thinking dans les entreprises. Quand on se rend compte qu'il faudrait peut-être désiloter
l'environnement. Il faut faire travailler des gens qui ne se connaissent pas, il faut arriver à débaucher pendant
deux jours, trois jours,
voilà, libérer du temps des personnes.
Ah là là,
grosse galère. Quoi.
Du temps. Exactement. Mais c'est assez. Parce que je suis très curieux de voir ce qui va devenir de tout ça.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout quand on voit justement dans d'autres espaces comme. Je les cite souvent, mais c'est intéressant, leur espace La Mine, qui est un tiers-lieu qui est à Villeurbanne. Eux, du coup, sont sur une démarche qui est complètement associative, individuelle, indépendante. C'est des personnes qui viennent parce qu'ils s'intéressent à la science, à réparer des vélos, à réparer du matériel, à à discuter sur des sujets de société, de recherche, des neurosciences. Enfin, bref, ça brasse énormément de choses. Juste ce matin, justement, ils étaient sur un événement atelier pour en fait réfléchir aux nouveaux modèles de gouvernance et comment est-ce que justement les gens pouvaient arriver à trouver leur propre modèle de gouvernance pour être compatible avec d'autres modèles de gouvernance à côté. Mmh. Donc tu vois, ils recherchent vraiment des choses intéressantes là-dedans. Et dans ces milieux-là, justement, qui sont aussi en explosion, parce que du design thinking, on en parle beaucoup, mais alors tout ce qui est lié au tiers-lieu, on en parle aussi autant que le fait que les gens changent de modèle de travail, partent vers l'indépendance et compagnie. Eux ont des difficultés justement sur cette notion de langage, de modèle de pensée et de biais cognitif potentiellement. Quoi. Ouais. C'est que, ok, ben, du coup maintenant on fait brasser plein de gens qui ont des âges différents, qui viennent de milieux complètement différents, qui ont intérêt en fait à s'entremêler. Et quand ils s'entremêlent, on a des problèmes de débat qu'on n'arrive pas forcément à gérer, de modération à avoir. On a des problèmes de gouvernance parce que y a des personnes qui vont vouloir faire avec leur propre modèle de pensée un projet. Où ils ont besoin d'avoir d'autres personnes qui, eux, ne sont pas sur le même modèle de pensée. Donc, il va falloir qu'ils trouvent ensemble un moyen de collaborer alors qu'ils ne pensent pas pareil à la base. Donc, moi, ce que je vois, dans les deux mondes qui sont encore, pour le moment, séparés et qui sont en train d'un petit peu se regrouper, je pense que les entreprises s'ouvrent et puis les tiers-lieux s'ouvrent aussi à accueillir les entreprises, c'est qu'il va y avoir vraiment tout un défi de tolérance, en fait, sur le fait, comme tu disais tout à l'heure, d'accepter que le monde est complexe et d'accepter qu'on ne contrôle pas grand-chose au final. Bah, accepter aussi que la complicité de l'humain et de sa manière de penser et d'accepter que l'autre pense forcément différent de nous et que c'est une richesse et que du coup c'est ça qui a valorisé plutôt que valoriser ce que nous-mêmes on est capable de penser par rapport à ça. Ce qui du coup fait rentrer en considération énormément de choses derrière, parce que si tu deviens plus tolérant et que tu valorises la diversité de modèles de pensée, alors dans ce cas-là, ton ego à toi il vient à être diminué un peu par rapport à ça. Parce que du coup, tu te dis, en fait,
je laisse la place aux autres,
faut que j'écoute les autres. Donc ça change profondément l'humain en lui-même, quoi. C'est un peu ce que je ressens en ce moment. Je me dis vraiment, tout ce qui est en train de se passer, qui va très vite, et qui va aller de plus en plus vite d'ailleurs, est en train de changer l'humain au-delà de la collaboration, au-delà de l'entreprise, mais vraiment en profondeur sur, sur sa propre conscience de lui-même dans la société, et de lui-même au-delà de son job, au-delà de ses amis, au-delà de... Ça éclate complètement, quoi. C'est assez fascinant, c'est vrai, ce qui se passe par rapport à tout ça. Tu peux prendre l'axe depuis n'importe quel point, au final, tu te rends compte que ça se rejoint, quoi.
Ouais.
Et ton troisième sujet ?
Et ça va rejoindre tout ce sujet de complexité. Là, c'est un sujet qui m'anime pas mal en ce moment, qui peut ne rien avoir à voir et en même temps c'est comment moi je suis un gros joueur, on a eu l'occasion d'en parler.
Tu étais venu pour les Creative Mornings.
Pour les Creative Mornings, pour parler de jeux en entreprise, de jeux d'apprentissage. Et en fait là sur un centrage sur les jeux pour justement parler de choses complexes. Soit de choses qui sont difficiles à aborder. Et donc d'utiliser le jeu pour pouvoir matérialiser des environnements complexes et permettre aux gens de toucher du doigt certaines caractéristiques de cette complexité. J'aimerais en créer plusieurs, créer des jeux, trouver des mécaniques qui font qu'on peut commencer à prendre tout ou partie de ces éléments de complexité en passant par des cas spécifiques d'études. On a co-créé avec Romain Couturier Deadline et c'était un peu l'idée qu'on avait derrière ça. Ça part d'une volonté de parler de gestion du temps initialement, collective. Et on s'est rendu compte en essayant de cartographier. En gros, le but de notre atelier, de notre jeu, était justement de faire parler sur la gestion du temps et en fait de faire quelque chose qui soit réaliste. C'est-à-dire de dire gestion du temps collectif. On va se mettre dans un environnement dans lequel on ne va pas donner de solution tout de suite, mais on va surtout essayer d'être le plus réaliste possible dans ces mécaniques. Et en fait, on s'est rendu compte, en partant de quelque chose qui était lié à la gestion du temps, qu'on venait de parler surtout de complexité. Parce qu'on est dans un jeu d'interaction, et que à chaque fois que tu fais une action, ce que tu prévoyais de faire, ou en tout cas ce que tu espérais faire de cette action, ne se passe pas exactement comme prévu. Parce qu'il y a de l'incertitude, il y a de l'aléatoire, parce qu'il y a les actions des autres et que même dans un système très coopératif dans lequel les gens se parlent, les choses sont transparentes, tout est sur la table, visible, et tout se passe pas comme prévu. Et on commence à voir émerger plein de caractéristiques différentes qui font ça. Et donc ça, j'aimerais bien réussir à faire ce type de jeu, de matériaux pour parler de complexité. Ça me semble être un...
Donc là, vous avez fait celui sur ce qui tourne autour de la gestion du temps. Donc,
qui
fait émerger toute la complexité qui est là-dedans. Donc, le rapport par rapport aux autres, comment est-ce que le temps des autres
influe sur le sien. De fait de dire, même moi, si je suis un pro de la gestion du temps, je mets les autres dans la panade. Si tout le monde essaie d'optimiser son temps, au détriment des autres, à un moment donné, quand le flux de choses à faire ne diminue pas et que j'ai toujours plus de choses à faire, si moi je décide d'en faire moins, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un qui va devoir en faire plus. Et donc il y a effectivement ce côté, en fait on est, sans dériver sur la gestion du temps, mais on s'est rendu compte que il y a plein de modèles de gestion du temps individuel qui peuvent être très efficaces si pour le à condition de le mettre vraiment en œuvre et d'être très discipliné dans ses démarches, qu'on parle de GTD, qu'on parle de Pomodoro, qu'on parle de processus de zone tampon dans son emploi du temps, enfin peu importe, mais si on est discipliné, ça peut être très efficace individuellement. Mais fondamentalement, c'est pareil, se déconnecter, enlever le téléphone, les notifications, les mails. À un moment donné, quand l'autre arrive, l'autre, peu importe qui,
ouais,
et vient me perturber mon truc, j'ai beau avoir des zones tampons, j'ai beau avoir des choses, des choses qui sont très disciplinées, tout peut exploser et c'est très très fragile. Et que ma volonté d'optimiser à fond mon truc peut mettre l'autre dans la mouise. Quoi.
Et encore une fois, du coup, on a essayé de rendre plus simple et plus solide quelque chose qui était complexe et
quelque chose
du coup
à un moment
ça
donné
va te rendre encore plus complexe
et qui à un moment donné a un effet boomerang, va te revenir dessus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre il va être complètement surbooké, il pourra plus prendre quoi que ce soit, donc qui va se le prendre, quelqu'un d'autre, puis à un moment donné ça va te revenir d'une manière ou d'une autre et après ça dépend de l'environnement dans lequel tu vas. Donc si on parle de l'entreprise, typiquement on parle d'acteurs d'une même entreprise, si plus personne ne fait rien parce que tout le monde a optimisé son agenda, quel est le risque pour l'entreprise, quel est le risque pour l'environnement qui est autour. Et donc on touche du doigt, donc on n'apporte pas de solution, il n'y a pas de... Apporter des solutions, ce serait simplifier la complexité, mais c'est plus du... je pense que je comprends mieux les limites de ma réflexion.
Voilà, une prise de conscience là-dessus, quoi.
Voilà.
Les GTD, le Pomodoro, ça peut marcher dans certaines situations. Les zones tampons dans mon agenda, ça peut marcher dans certaines situations. Ça peut durer pendant 4-5 mois, mais je suis conscient, dans tous les cas, qu'à un moment donné, il y a forcément un truc qui va venir le faire péter, ou qu'à un moment donné, je vais faire péter quelque chose à quelqu'un d'autre, et ça va me revenir en effet boomerang un petit peu dans la tête, quoi.
Et qu'en fait, la gestion du temps est qu'un symptôme, c'est-à-dire que la partie visible de l'iceberg, de tous les problèmes d'organisation qui sont en dessous, en fait.
Ah, c'est super intéressant parce que, moi j'ai toujours beaucoup été là-dessus, ça arrivait à gérer cette optimisation du temps et puis toute automatisation qui va autour, toutes ces choses-là. Et un truc que je m'étais créé, c'était les zones tampons dans mon agenda, en me disant que, par exemple, un jour sur deux, j'avais 2 heures qui étaient bloquées pour faire du yoga ou des autres choses comme ça. Et puis, les jours intermédiaires, c'était 3 heures qui étaient bloquées l'après-midi pour aller à l'escalade. Et du coup, ça, je me l'étais arrêté et je m'étais dit, je me tiens à ça. Parce qu'il me faut au moins ça pour que je puisse déconnecter du cerveau et vraiment me mettre sur un truc physique qui fait du bien, quoi. Et j'arrive à tenir. Et puis après, un jour arrive forcément, comme tu dis, où tu as quelqu'un qui, il faut absolument que tu vois, qui te propose de te voir à 16h le mercredi alors que tu n'es pas censé pouvoir répondre oui. Et là, du coup, ça commence à créer un dilemme, même si tu es tout seul. C'est soit tu dis oui. En quel cas, ça va être parfait d'aller voir cette personne, mais en même temps, ça fait sauter aussi ta rigueur et ta discipline que tu t'étais créé. Soit tu dis non, et dans ce cas-là, tu vas grimper à l'escalade, mais tu continues à te dire dans ta tête, putain merde, du coup, c'était le truc que j'aurais pas dû rater et tout. Et tu as cette espèce de remise en question constante en disant, alors du coup, est-ce que je suis quelqu'un qui rate des opportunités ou est-ce que je suis quelqu'un qui rate à sa discipline personnelle. Et ça revient encore sur des choses qui sont très profondes, de se dire, ouais, du coup,
voilà, est-ce que j'arrive pas à discipliner ou j'arrive pas à profiter des opportunités, et ça fait réfléchir à tout ça. Alors que si tu as cette acceptation, comme tu disais, de cette compréhension déjà que c'est un système complexe, alors en quel cas tu te dis, bon bah non, en fait c'est normal. C'est normal que ça pète à un moment donné, c'est normal que cette personne j'allais avoir.
Ça sera pas moins douloureux.
Hein. Ouais. Non mais voilà, bien sûr.
Tu l'acceptes, mais ça va faire mal.
Ça sera pas moins douloureux, mais tu t'envoies pas une deuxième flèche sur toi en te jugeant par rapport à ce que tu
as. Potentiellement, c'est ça. En fait, c'était. En tout cas, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec le jeu, c'est pour ça que je veux passer par le jeu, c'est qu'il y a des choses, beaucoup de choses que nous, on a perçues, aussi des prises de conscience, nous, créateurs du jeu.
Oui, c'est ça, ça vous fait travailler sur
par l'expérience des autres.
Ouais.
Et on s'est rendu compte, justement, en jouant ce jeu, donc l'idée du jeu, ce qui est intéressant, c'est justement qu'il n'y a pas de prise de risque.
Là, il y a un gros matelas.
C'est une heure et demie.
On est dans la simulation.
On est dans autre chose, on est dans la simulation. Toute erreur n'est pas punie immédiatement, tant que je joue dans un cadre bienveillant. Mais et on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait utiliser ce jeu pour permettre aux gens qui se sentent mal de mal gérer leur temps. Parce qu'il y a une culpabilisation de dire je ne suis pas organisé. De se dire, mais en fait, vous n'êtes pas seul responsable. Vous avez une part de responsabilité, okay. Si je ne suis pas discipliné, c'est ma responsabilité, mais il est probable, et il est très probable, que ce problème de gestion du temps ne soit pas de votre seule responsabilité. Si vous avez un environnement qui bouge dans tous les sens et qui est assez qui est un peu chaotique dans le pire des cas, vous étonnez pas qu'à un moment donné, ça vous revienne dessus en fait. Et donc, on pouvait utiliser ce jeu aussi pour permettre à des gens de se déculpabiliser et de prendre du recul et de souffler un petit peu par rapport à le regard que je peux avoir sur moi-même.
Ouais, donc, tu as une dimension de compréhension d'un système et de quelque chose.
Parce que c'est systémique.
Et en même temps, après, ça te renvoie forcément sur toi-même, sur exactement. La manière dont tu te gères toi-même et de comment tu te juges toi-même aussi. Donc, c'est
tout
toujours,
à fait.
Toujours entremêlé, quoi.
Exactement.
Et qu'est-ce que tu as d'autre comme exemple de jeux justement qui permettent de prendre conscience de la complexité déjà existant ?
Des jeux existants qui permettent de prendre conscience de la complexité. Alors il y en a un qui est un jeu classique de l'agilité pour justement toucher ça, qui s'appelle le Marshmallow Challenge, qui consiste à faire une tour avec des spaghettis, du scotch, de la ficelle, et en fait une tour en spaghettis qui doit soutenir un marshmallow au sommet. Donc il y a des agilistes qui m'écoutent. Il y aura purée encore ce fou là, mais peut-être que voilà, j'espère qu'il y aura des gens qui ne connaissent pas et qui auront l'occasion
de
pratiquer. D'accord. Voilà, c'est un jeu culte de l'agilité qui a ses amateurs, ses détracteurs, comme tout produit. Et en fait, c'est de pointer du doigt que le marshmallow il est léger, le spaghetti il est droit, il tient, mais bon attention, il peut casser. Un spaghetti, deux spaghettis, trois spaghettis, et à un moment donné, combien de spaghettis il me faut pour tenir un marshmallow ? Quelle est la capacité de résistance d'un spaghetti et quelle est la capacité de résistance de plusieurs spaghettis si je les mets bout à bout ? Et en fait, d'une augmentation du nombre de paramètres qui rendent l'exercice complexe et qui oblige les participants à essayer, rater, réessayer, pour le coup, pour simuler et pour parler de l'agilité, c'est ça, c'est de faire des expérimentations jusqu'à ce qu'on arrive à faire tenir ne serait-ce qu'une tour petite. Parce qu'en fait, l'objectif est de faire la plus haute tour, mais en fait, déjà, si je fais une tour, c'est déjà très bien.
Ouais, je marche pas l'autre, tiens, déjà au-dessus de quelque chose, c'est déjà pas mal.
C'est ça. Et de matérialiser, voilà, on a ça dépend des expériences, parce que le jeu est aussi pour l'animateur toujours une expérience. On ne sait jamais ce que les gens vont en faire et ce qui va ressortir. Mais de voir en fait quels sont les modèles de groupe qui vont plutôt être dans de la prédictibilité et de la planification, et si ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et ceux qui vont partir tout de suite sur du test rapide et voir qu'est-ce que ça donne. Donc pour moi il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse.
Non, mais là on peut clairement voir les différents biais cognitifs, quoi.
Exactement,
on va voir la partie de tous ceux qui sont plus sur un modèle de pensée un peu créatif, artiste ou quoi, qui vont directement se jeter dedans, essayer, faire tomber, casser, mettre du scotch de partout. Et puis une partie peut-être un peu plus ingénieure, qui eux vont se dire, bon attends, il pèse combien ce spaghetti ? C'est quoi son truc de résistance ? Attends, je vais te faire un calcul, on va calculer ça. Le marshmallow, c'est combien ? Du coup, combien on va en mettre ? Quel angle ? À quel angle on met la tour pour que...
Et là, ça tienne, tu vois directement... Tu peux poser pas mal de choses. Mm. Tu peux débriefer sur pas mal de trucs. Après, j'en ai un que j'ai créé... Un autre que j'ai créé qui était autour de la priorisation. Donc un sujet assez resserré, pas une forme de complexité globale, mais quelque chose de très local qui est de prioriser en groupe. En fait, il est facile de dire, moi, ça, je préfère ça, je préfère ça, je vais faire premier, deuxième, troisième, ok. Encore des fois, j'ai des difficultés déjà, moi, à être d'accord avec ma capacité à prioriser des choses. Mais d'un seul coup, en groupe, avec l'autre, ça devient plus complexe. Alors, la complexité émerge énormément quand on a de l'interaction humaine, le cerveau humain, le biais cognitif, et tout ce qui va venir en termes de psychologie humaine et de perception.
Toutes nos expressions qui sont, on n'est jamais bien servi que par soi-même.
Exactement, l'enfer c'est les autres.
Voilà, c'est ça.
Ce genre de choses, effectivement. Et donc là, c'est un jeu qui initialement sert à matérialiser de la priorisation collective et de pointer la difficulté que ça représente. Et là encore, les caractéristiques qui rentrent en jeu, les paramètres qui rentrent en jeu, qui rendent l'exercice difficile. Tous les non-dits, toutes les attentes non explicitées, tous les critères de chacun, critères qui chacun se construit dans sa tête pour pouvoir prioriser un élément non explicité au groupe. Et quand chacun arrive avec toute cette matière-là, on arrive à des choses difficiles. Donc comment on arrive à expliciter des choses, à présenter, à partager des critères, ce genre de choses, pour réussir à prioriser ensemble. Et donc là, on touche là encore, je pense, à des éléments de complexité.
Oui, clairement. Puis même des éléments de complexité relationnelle directement avec les humains.
Ouais.
Chose que, justement, si je fais le rebond avec le design thinking, essaye de régler, entre guillemets, par justement des outils qui sont extérieurs à un modèle d'interaction classique. De blablabla, quand tu parles de non-dit, du coup, ça veut dire qu'une personne a gardé quelque chose dans sa tête. Alors que du coup, dans des méthodes comme le design thinking, on essaie de tout faire sortir de sa tête, et puis d'y afficher sur les murs, et puis de construire ça en schéma ou en connectant des points entre eux, pour que justement ça soit visuel. Même si c'est complexe, vu que ça a été construit avec le groupe, et que c'est à l'extérieur du cerveau des gens, et bien là, dans ce cas-là, c'est un complexe, mais qui peut être interprété et qui peut être compris. Plus simplement que de laisser les gens juste en mode réunion classique, blablabla, blablabla.
C'est ça. On va pouvoir commencer à discuter de sujets en se basant sur des... Toi qui aimes bien les métaphores et les analogies, en se basant principalement sur des analogies.
Ouais,
d'ailleurs, le jeu que je pratique, qu'on est plusieurs à pratiquer, même nombreux à pratiquer, sert principalement à ça, à créer des nouvelles analogies. Prendre conscience par... en enlevant... En fait, justement, le jeu permet de traiter un sujet d'entreprise, en laissant de côté la complexité de l'entreprise. C'est-à-dire tous les trucs qui viennent te plomber, la politique, d'autres acteurs de l'entreprise qui sont difficiles, tous les problèmes que tu as, d'un seul coup, tu peux te focaliser sur un sujet en particulier en laissant de côté la complexité de l'entreprise et de pouvoir traiter uniquement en niveau local du sujet.
C'est intéressant le sujet du jeu, dans le sens où justement, c'est comme si on se crée une bulle de réalité dans la bulle de la vie.
Une nouvelle, c'est ça. C'était... Il y a un théoricien, je pense que c'est un philosophe ou un théoricien qui s'appelle Roger Caillois, qui avait théorisé sur le jeu en disant que le jeu, c'est contraint dans le temps, contraint dans l'espace. Il y a très peu d'enjeux. Il y a des jeux d'argent, ok. Normalement, le jeu reste un jeu, justement, quand le côté argent ne prend pas trop le pas. Et il est peu risqué et quand on a envie d'y jouer. Et donc je peux me créer ma bulle, je me déplace dans cette bulle pour jouer avec d'autres personnes, dans un environnement sécurisé, dans lequel il y a très peu d'enjeux, dans un temps limité et à un endroit où j'ai envie d'aller. Et je peux me recréer cette bulle et c'est de la simulation, simuler des choses réelles dans un environnement autre dans lequel il y a de la bienveillance, dans lequel il n'y a pas de risque. Et dans lequel, donc, je peux tenter des choses. Et je peux changer rapidement. D'un tour, j'ai un jeu avec plusieurs tours. À chaque tour, je vais fonctionner différemment parce que je vais essayer d'autres manières de faire. Je vais rater, je vais recommencer. On en revient à toucher du doigt, encore une fois, comment j'arrive à gérer cette complexité. Donc, très local, parce que dans le cadre d'un jeu.
C'est marrant, ça me fait penser à... Je m'éloigne un petit peu, mais à une vidéo que j'ai vue hier, justement, d'un type qui, pour lui, il se disait que l'un des jeux qui serait les plus fascinants, serait l'un des jeux où, justement, tu aurais toutes les conditions que tu viens de dire là, mais où, en plus, tu aurais oublié que tu es dans le jeu.
Oui.
Et du coup, après, des analogies avec la vie.
Le jeu de la vie. destin.
C'était rigolo, c'était ça, c'était de se dire, bon bah voilà, en fait les gars, on est dans un jeu, il y a toutes les conditions qui sont réunies du jeu, donc le fait que ben, ça va bien se passer, qu'il y a des choses qui s'entraînent, qu'il y a plusieurs rounds, qu'on peut essayer des tonnes de trucs. Mm-hmm. Mais ce qui le rend palpitant, c'est qu'on sait plus que c'est un jeu, mm-hmm. c'est qu'on l'a oublié. Donc du coup, on vit des émotions qui sont fortes, et on vit des émotions qui changent dans tous les sens, et on crée des liens avec les autres, et on s'implique, et on est malheureux, et on est heureux, mm-hmm. parce qu'on a oublié. Parce que si on n'avait pas oublié, du coup, ça serait comme un jeu dans une réalité virtuelle. Au fond de toi, tu y joues parce que tu es imprégné dedans et que tu as envie et que le scénario est intéressant et qu'il se passe quelque chose. Mais au fond de toi, tu sais que n'importe quand, tu peux enlever le casque et arrêter. Donc les émotions sont assez limitées. Alors que si tu oublies quand tu as mis le casque sur la tête, alors dans ce cas-là, tu joues vraiment un jeu de fou, quoi. Mmh. Et du coup, c'était marrant, je trouvais, de voir la vie justement sous cette dimension-là comme un jeu. Ce qui, du coup, après rejoint la notion de croyance. Mais c'était rigolo parce qu'après, du coup, si tu arrives à accrocher à cette croyance-là, tu peux te dire, bon, bah voilà, je peux essayer plein de trucs. De toute manière, ça craint rien.
Oui, voilà, c'est à partir du moment où ça craint rien. C'est bientôt le jeu de la vie, c'est qu'à un moment donné, à faire trop d'erreurs dans la vie, ça peut te coûter cher. Mais c'est un peu le vrai.
Voilà, le jeu de la vie. Bon, on va pouvoir jouer alors. Et si jamais les gens qui écoutent, ils ont envie de tester ces jeux avec toi, est-ce qu'il y a des sessions prochaines qui sont prévues ou des choses comme ça?
Alors, des sessions. Alors déjà, il y a de la ressource, beaucoup de ressources sur le net pour trouver des jeux d'entreprise. Il y a une référence internationale qui s'appelle testycupcakes.com dans lequel il y a beaucoup de jeux de projets, de simulation de projets, de petits jeux de liés à des caractéristiques d'un projet. Il y a une association, enfin c'est pas une association, c'est un événement qui s'appelle Agile Game France, qui est autour du jeu Agile, qui a lieu chaque année dans un endroit en France. Et donc il y a un site Agile Game France dans lequel il y a tout un référencement des jeux qui ont été joués pendant l'événement. Il y a les Agile Playgrounds. Donc moi, j'organise celui de Lyon, il y en a à Paris, il y en a à Sofia, il y en a à Bordeaux, Sofia Antipolis, hein, mmh. Sofia, mmh. Sofia Antipolis. Et après, ça dépend. Voilà. Moi, je ne suis pas exhaustif hein, dans la connaissance des jeux d'apprentissage. Après, il y a beaucoup d'entreprises qui font des jeux de simulation, dont vraiment le cœur de métier est de faire des jeux de simulation. Il y a des jeux très bien. Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas l'air très fun de prime abord. C'est vrai que je mets un point d'orgue. Donc, je ne sais pas si vous allez voir Deadline, donc c'est le jeu Deadline sur Google. J'ai mis un point d'orgue à créer un jeu. C'est-à-dire quelque chose dans lequel, quand je regarde les cartes, le plateau, je suis dans le jeu, ça a l'air fun, je vais m'éclater.
Ouais, faut s'amuser, c'est l'un des caractéristiques aussi du jeu, faut s'amuser.
Je me suis pas rendu compte à quel point, en fait, j'ai vécu une misère totale. Parce que le jeu Deadline n'est pas un jeu facile, un jeu dans lequel on galère beaucoup, mais je m'en rends pas compte, parce que, en fait, je suis quand même très fun. Et voilà, donc il faut voir ce qu'on recherche. Moi, je suis un joueur, donc je cherche du fun. Ça doit faire les deux. Alors c'est empreint d'un univers et je rentre dedans et j'aurai plus de facilité à apprécier l'apprentissage à partir du moment où j'aurai vécu une belle expérience. La notion d'expérience qui est très forte, très importante pour moi.
Expérience et s'amuser.
S'amuser, et après, vivre l'expérience et apprendre ou prendre conscience.
Deux choses complexes en plus de ça. Donc c'est encore plus beau quoi. Ok, cool. Merci Grégory.
Merci Fabrice.
Hey, voilà, encore une belle, belle discussion, plein de nouveaux trucs appris. Les biais cognitifs, j'en ai plein. Et du coup, ça m'a fait penser à tout ça pendant cette conversation. Je ne sais pas vous où vous en êtes par rapport à vos biais cognitifs, mais en tout cas, il y a beaucoup à explorer dans la psychologie et la psychologie analytique. En tout cas, Grégory est quelqu'un de très curieux. Et justement, je pense que je vais l'inviter à me proposer la prochaine personne que je dois rencontrer. Ça me permettra de rencontrer peut-être quelqu'un que je ne connais pas. Et ça apportera encore plus de diversité justement aux échanges qu'on peut avoir sur ces podcasts. Comme à chaque édition, merci à Grégory vraiment de sa participation. Merci à vous d'avoir écouté. Et puis justement, si vous avez des sujets de curiosité autour desquels vous voulez développer, on peut tout simplement se boire un café à Sofa et discuter de tout ça. justement, il n'y a pas de préparation, c'est une discussion libre. Comme ça, au moins, c'est sincère et puis ça ouvre à plein de sujets différents. Et puis, si jamais vous n'avez pas envie de discuter avec moi, ben, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même m'envoyer vos curiosités, vos sujets de curiosité qui peuvent inspirer justement les prochaines conversations. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire pour la suite? Je vais partager justement sur Nextdoor, je pense, tous les liens en rapport avec cette conversation. Et puis à très bientôt pour un prochain interview. Je ne sais pas encore qui ça sera justement, on va voir ce qui vient. Et puis je vous souhaite d'être curieux et de découvrir encore plein de nouveaux sujets. Voilà, allez, rendez-vous à la prochaine.